à votre santé. Eh bien, voici la 220e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis de RVM 93.
7, bonjour les amis, c'est Daniel Cléo.
Bonjour, Philippe Barrier.
Notre invité.
Et donc aujourd'hui, nous sommes dans des conditions techniques un peu particulières. Pas dans le studio en tous les cas, nous espérons que la qualité ne vous fera rien perdre de notre émission dont le thème est « Regard sur la fin de vie ». Vous en avez entendu parler et parfois on se dit qu'il y a vraiment des paradoxes. On a un moment où vraiment on n'entend parler que des bombes. La vie humaine semble peu de choses et chez nous la question de vie revient. Dans un débat qui dure depuis des années, donc dans le débat public à propos d'un projet de loi en gestation et plus précisément suite à une déclaration du président de la République. Donc nous comptons sur Philippe pour nous dire un petit peu, d'abord il y a déjà une loi, c'est la loi dite Leonetti, qui est relative aux droits des malades. Et à la fin de vie. Donc, Philippe, est-ce que tu peux déjà nous donner des éléments précis parce qu'il y a beaucoup de confusion.
Oui. Alors, je suis pas juriste, je suis philosophe, mais pour réfléchir sérieusement à la question, il faut connaître effectivement les termes de la loi et la réalité à la fois juridique, sociétale, sociale, etc. La loi Leonetti autorisait pour être très clair, la sédation pouvant donner la mort. Et elle était à la charge du personnel soignant, qui pouvait, sur le vœu du patient ou de son entourage, aller jusque-là. Mais c'est quelque chose qui est un terme technique, et qui, par exemple, n'était pas clair du tout pour le public. Ce qui fait que les gens, dans leur volonté, et dans ce qu'ils transmettent à leur personne de confiance, ne mettaient jamais ce terme, en disant « moi, je souhaite mourir en cas de trop grande souffrance sans issue possible ». Alors, cette loi insistait énormément sur les soins palliatifs qu'il fallait développer, qui de toute façon sont là pour une fin de vie digne, maintenir les gens dans des conditions dignes, effectivement. Mais il y avait cette ambiguïté et cette grande réticence de la part du personnel médical, du médecin, qui dit « moi je ne suis pas là pour donner la mort ».
Et oui.
Je suis là pour permettre la vie. Sauf que, est-ce qu'on a le droit de condamner quelqu'un à la torture quand il a une douleur insupportable, avec un diagnostic vital très engagé et sans solution thérapeutique
Justement, je t'arrête un petit peu, Philippe. Moi, il me semble avoir lu dans les hôpitaux une charte des droits des malades, et en particulier sur la douleur.
Absolument. Mais il y a la loi, et il y a comment on l'applique. Alors, sur la douleur, ça fait quelques années, disons qu'à partir de la loi Kouchner, en 2005, beaucoup de choses ont changé, et on a commencé à prendre vraiment en compte les vœux des patients. Mais par exemple, pour faire un traitement à la morphine pour quelqu'un en grande souffrance, il a fallu beaucoup de temps. Et malgré les textes de loi, malgré les règlements, il y a des soignants qui refusaient.
Ah oui.
Voilà. Bon, la loi, il y a la loi, et puis il y a comment on l'applique. Alors, je ne veux pas noircir le tableau, beaucoup de gens font leur travail et leur devoir, mais déjà ça, c'était difficile. Alors, ce qu'apporte la nouvelle loi... Alors, il est rare que je sois heureux de ce que dit le président de la République.
Mais pour une fois.
Mais pour une fois, je trouve qu'il a fait avancer la problématique, peut-être pas suffisamment loin, il y a des gens qui critiquent de ce point de vue-là, mais il a levé quelques obstacles à, justement, pouvoir terminer sa vie dans la dignité, c'est-à-dire avoir aussi... une mort digne si on le souhaite parce que les souffrances sont trop vives. Donc on va au-delà de la loi Leonetti en... Alors le terme, c'est aide à mourir. Droit à l'aide à mourir. Le patient a droit à l'aide à mourir s'il la demande. Il y a quatre critères pour y avoir droit, d'abord être majeur. C'est-à-dire qu'on considère que ça ne peut pas considérer, qu'on ne peut pas prendre en considération les enfants, que c'est les parents qui en décident. Deuxième critère, que le diagnostic vital soit engagé. Troisième critère, alors je ne le donne peut-être pas dans l'ordre, que la personne ait des facultés mentales de choix. C'est-à-dire, par exemple, le cas d'Alzheimer est exclu. On considère que la personne n'est pas en mesure de décider. Ça se discute peut-être, mais je pense que médicalement, ce n'est pas faux. Et quatrièmement, qu'il n'y ait pas de solution pour faire cesser la douleur. Donc voilà un filtre qui permet, je crois, quand même de rendre possible la fin de vie choisie de cette façon. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il a évité, mais je trouve que c'est intelligent, le mot d'euthanasie.
Oui.
Parce que l'euthanasie, ça ne signifie pas uniquement « je choisis de mourir », mais on peut, d'une certaine façon, choisir pour moi. C'est du moins la crainte qu'on peut avoir, les usages, et les usages, y compris
politiques. Oui, dans l'histoire,
Dans l'histoire. Donc, lever ce tabou-là, ce tabou-là, effectivement, ce serait dangereux et grave. Et ça a été évité de cette façon. Deuxièmement, il y a toujours un frein de la part des médecins, je l'ai évoqué avant, en disant, moi, je ne suis pas là pour donner la mort. Alors, pourra donner la mort d'une façon, je veux dire, avec un vrai médicament létal, non seulement le médecin ou le personnel médical, mais la personne elle-même, si elle est en mesure de le faire, et un proche qu'elle aura choisi. Donc, il n'y a plus de clause de conscience des médecins qui peuvent dire « je ne veux pas ». Alors, il y a un facteur de temps, c'est-à-dire à partir du moment où la personne demande, il y a 15 jours, pour qu'elle peut se rétracter à tout moment, et à partir du moment où la décision est prise, il y a 3 jours avant que ce soit effectué.
Ça se passe.
Alors,
Mais est-ce que ce que disait la voix Leonetti, c'est-à-dire la sédation jusqu'à la mort, est-ce que ça reste dans la loi?
Non.
C'est reparti, ah d'accord.
Je ne pense pas, il faudrait vérifier. Hein? Mais c'est vraiment alors peut-être que c'est un des moyens utilisés, mais c'est un médicament, vraiment un médicament létal dont on sait qu'il va donner la mort. Alors que là, il y avait une espèce, je dirais pas d'hypocrisie, mais d'ambiguïté, éventuellement jusqu'à la mort. C'est-à-dire que c'est un effet secondaire, mais qu'on envisageait. Et bon, c'était très ambigu.
L'aspect quand même qui prédominait, c'est qu'avec la sédation, il n'y avait plus de souffrance de la personne.
De toute façon, on va alléger la souffrance de la personne avant d'en venir, autant que possible.
Oui, il faut dire autant que possible, parce qu'on a des témoignages, moi j'en ai eu un récemment, qui m'a donné vraiment froid dans le dos, et c'est dans l'Oise, c'est dans un hôpital de notre département, et bien, pas de soins palliatifs, pas de place ailleurs. Et donc on a laissé quelqu'un souffrir horriblement. La personne qui était avec elle était une infirmière, donc connaissait bien un certain nombre de choses, et elle a souffert aussi parce que c'était insupportable. Tu as parlé, dans la loi il y a la question des soins palliatifs. C'est évident que c'est une lacune énorme sur notre territoire. Moi, qu'on me dise que dans notre département, alors effectivement, ça fait pas si longtemps, mais si quand même, ça fait un certain temps qu'il y a. Moi, j'ai lu des livres qui dataient, des pionnières qui accompagnaient en soins palliatifs, et puis j'ai vu de près comment ça fonctionnait. Moi, j'étais admirative du fonctionnement des soins palliatifs. Je disais pour la première fois, je sens que c'est l'humain qui prédomine sur, on va dire, le technique, la technique médicale.
Absolument. Voilà. Ça ne remplace pas cette avancée de la loi, le développement nécessaire des soins palliatifs, qui sont des soins magnifiques, effectivement. Mais il y a eu des promesses qui, à mon avis,
n'ont pas été
énormément tenues, parce que c'est alors là, à nouveau, il relance ça comme une priorité. Est-ce que ça le sera budgétairement? On peut en douter, puisqu'il n'y a de toute façon que des restrictions budgétaires, y compris dans la santé, et depuis des décennies. Donc il y a aussi un dysfonctionnement. Il n'y a pas assez de soins palliatifs dans l'ensemble du territoire, évidemment.
Moi, je voulais dire, il existait un document CERFA, parce que moi, mon épouse est décédée, je vais revenir un peu à un cas personnel, elle est décédée d'un cancer, et à chaque fois, elle avait rempli ce document pour alléger un peu les souffrances, et puis dire stop à un moment. Donc, elle était consentante, elle avait signé, il y avait mon fils, le plus jeune, qui avait signé avec elle. Donc, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous, elle ressortait ce document. Est-ce que c'est caduc, ce document CERFA, là, qui avait été fait? Il y a quelques
c'est ce qu'on
années.
Appelle les directives anticipées.
Voilà, bravo.
La directive anticipée
ça, le
demeure,
nom.
Bien sûr.
Ça reste.
Et avec la désignation d'une personne de confiance, ça reste. Le problème, c'est qu'apparemment, on n'en tenait pas compte.
Voilà,
c'est ça que vous êtes en train de dire.
Bien sûr.
Alors, c'est terrible.
Donc, je trouve que la loi fait une avancée, mais il y a toujours un problème. C'est
l'appliquer.
Que c'est une décision collégiale, médicale. Encore une fois, ce n'est pas le patient qui a le dernier mot.
Faut l'appliquer.
Alors, on a facilité les choses de manière à ce qu'il n'y ait plus de clause de conscience possible, puisque ce ne sera pas forcément le médecin, etc. Mais il demeure que ce n'est pas une décision qui revient strictement au patient, mais encore une fois, au médecin, enfin, collégialement. Alors, c'est déjà mieux, parce que ce n'est pas une seule personne, mais on peut imaginer un centre hospitalier. C'est comme pour l'avortement, où des gens disent « moi, je suis contre, je ne le ferai jamais ».
Bien sûr.
Et on n'a pas de chance, on est tombé sur cet hôpital.
Et voilà.
Ben voilà.
Donc, le problème demeure. Alors, je suis peut-être un peu, je noircis un peu les choses, mais enfin, la réalité de ce qu'on constate dans le système de santé aujourd'hui, c'est ça. Malheureusement, parce que pénurie, restriction, manque de personnel, manque de formation, voilà.
Mais déjà, l'accompagnement, dans le quotidien de l'hôpital, je ne parle même pas des soins palliatifs, il y a beaucoup de souffrance.
Hein,
et bon, on a X témoignages de personnes qu'on laisse comme ça, alors qu'on nous met dans la charte que tout doit être fait pour, etc., éviter la douleur. Donc, c'est une vraie question. Et alors, je pense que, outre, je pense que ce qui fait peur, c'est toujours la douleur, enfin, c'est vécu, hein. Quand même, c'est ce qu'on appelle la fin de vie. C'est très, enfin, c'est pas ambigu, on le comprend bien, mais déjà, il faut être très malade pour dire qu'on est en fin de vie, parce que qui peut prévoir qu'il est en fin de vie? Il y a tellement d'aléas dans la vie. Mais surtout, je pense que... Enfin, on ne parle pas de la mort.
Oui, c'est les, on évite le mot encore.
Voilà, c'est les jours, les semaines, les mois avant la mort. Et donc, il me semble que si on s'en préoccupe aujourd'hui, est-ce qu'on s'en est préoccupé plus tôt? C'est question de la mort aussi, mais...
Alors, puisque je suis philosophe, j'ai prêché pour ma boutique, je veux dire, de la philosophie grecque antique, avec le stoïcisme ou même l'épicurisme, évidemment, on pensait à la mort. Et comme on dit aussi, le philosophe peut quitter la vie en philosophe, c'est-à-dire décider que ça suffit. Non, ça, c'est un débat philosophique qui dure depuis que l'homme réfléchit. Alors, je ne suis pas anthropologue, mais je pense que dès les débuts de l'humanité, quand on a compris qu'on était mortel et qu'on a vu mourir ses proches, on a pensé à la sépulture, ce qui est un geste aussi de dignité, puisque
de respect,
le cadavre représente la personne qu'elle était, et on en fait quelque chose. Donc ça, c'est... Mais aujourd'hui, c'est vrai, le mot mort est un peu tabou, et on parle de fin de vie. Mais la fin de vie, c'est pas que la vieillesse. Je veux dire, effectivement, un cancer fulgurant, on est en fin de vie, ça peut être à 40 ans. Hein. Donc, les progrès de la médecine ont fait que, d'une part, on vit plus vieux et avec des pathologies dont on n'avait pas le temps de souffrir quand on mourait autrefois avant. Mais enfin. On a aussi acquis, si je puis dire, de nouvelles pathologies du fait de la pathologie de l'environnement dans lequel on vit. Hein, la dégradation chimique, etc., etc., des pollutions, y compris de ce qu'on ingère, sans le savoir ou en le sachant. Bon, donc on a créé de nouvelles pathologies aussi. Alors, c'est pas tout à fait la question, mais les progrès de la médecine font qu'on se pose la question. Et puis, de quelque chose qui était traité au sein de la cellule familiale, les personnes, les ancêtres vivaient la plupart du temps encore avec les enfants, les petits-enfants, il y avait une cellule large. Ça fait bien 60 ans ou peut-être plus que ça a régressé. Donc c'est la société qui effectivement a pris le relais, a pris ça en charge. Et c'est devenu une des missions de l'État. Mmh. Mais comment c'est aujourd'hui, c'est plus les missions qui l'intéressent, c'est plus ce genre de mission qui l'intéresse.
Oui.
Il n'y a plus que ce qu'il appelle le régalien, c'est-à-dire le pouvoir aussi répressif que possible pour rester en place.
Oui.
Si je puis me permettre.
Voilà, donc il y a tout le temps des contradictions terribles parce qu'on voit des sommes folles partir pour la destruction des êtres humains et que des chercheurs pleurent pour avoir des fonds leur permettant...
Et on fait appel à la charité.
Exactement.
Voilà.
Donc là, on est, comme disent souvent les gens, on marche sur la tête. Alors quand même, le fait qu'il y ait ce débat sur la fin de vie, est-ce qu'on peut dire que c'est une humanisation de la question de la mort? Est-ce que c'est...
C'est la prise en compte de la dimension humaine, effectivement, et c'est quand même relativement récent dans l'hôpital, c'est vrai. Enfin, ça devient effectivement quelque chose sur lequel on réfléchit et qu'on cherche à introduire dans l'institution. Alors, on a vu ce qui fait que ça a du mal à être introduit, plus la crise sociale, etc. Mais oui, c'est un... quand on pense que, je ne sais pas, jusque dans les 60, par exemple, la douleur, on considérait que les bébés et les jeunes enfants ne connaissaient pas la souffrance, donc on les a torturés gentiment, sans moindre scrupule. Bon, maintenant, on prend en compte, effectivement, la souffrance et le problème de la fin de vie. Jusqu'à quand et dans quelles conditions ça vaut le coup de vivre encore? Est-ce que c'est supportable si... Alors, il y a des catégories qui sont nées, plus ou moins philosophiques. Par exemple, une vie, comme c'est dans la loi Leonetti, je crois, poussi-relationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de relations possibles. Est-ce que c'est encore une vie humaine?
Voilà. Des questions,
donc c'est des questions qu'on se pose et qu'on ne se posait pas franchement dans l'hôpital du 19e, du début du siècle. Donc c'est un progrès social ou sociétal. Mais freiné par beaucoup de choses qui sont aussi sociales et politiques.
Donc, on a l'impression qu'on veut sortir de la fatalité, ou d'une vision.
Ouais.
Et puis qu'en fait, c'est d'autres...
Philosophiquement, d'autres, je ne dirais pas qu'on veut qu'on puisse sortir de la fatalité. Je veux dire, le tragique, c'est le tragique. La vie se termine par la mort pour tout être vivant. Ça, c'est inéluctable, malgré des fantasmes et des délires philosophiques de transhumanité qui sont extrêmement dangereux et coûteux si on s'y mettait et qui sont de toute façon, enfin, la survie de l'individu est une catastrophe évidente pour l'espèce. Je ne vois pas quel pseudo-philosophe peut le penser. Il y en a un qui est bien connu pour ça, mais il a trahi ce que c'est que la philosophie.
Oui, je crois qu'effectivement on va pouvoir conclure là-dessus, c'est que tout n'est pas résolu, mais il y a quand même des avancées, on va dire.
Oui.
Mais voilà, avec les limites, malheureusement, assignées à ceux qui détiennent les leviers, on va dire.
Absolument.
Voilà.
Et la question n'est pas résolue, philosophiquement ou sociétalement. Je veux dire, il y a un modèle belge, il y a un modèle suisse. On peut les discuter, où là, il y a effectivement, c'est beaucoup plus... facile, et le mot suicide et suicide assisté est le mot qui prévaut. On n'en est pas là du tout, et pour des raisons que je trouve défendables dans le modèle qui est proposé. Pour moi, le problème majeur, c'est que ça reste une décision médicale, collégiale, et non pas du patient.
C'est très bien. Eh ben, merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Et puis, on va pouvoir dire à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent réécouter cette émission le samedi à 10h30, mardi à 13h, jeudi à 16h.
Et en podcast, comme on dit en français. Au revoir.
Au revoir.